tous. Me voici en plein soleil et je me dis que le Seigneur est bon, puisque là nous étions en vacances en un lieu où il y avait vraiment beaucoup de soleil. Non seulement du soleil, mais aussi une température nettement plus élevée qu'ici, au moins une trentaine de degrés de plus. Et c'est vrai que moi qui pensais être un homme du froid, je me rends compte à quel point il est agréable des fois de vivre dans un environnement qui est moins hostile. Il me dit de commencer ainsi avec ce soleil, même si ce soleil me masque un petit peu la vue, est quelque chose de bien agréable. C'est donc une bienvenue à chacun, que nous puissions ensemble ce matin tourner les regards, non pas vers moi qui suis en pleine lumière, mais que nous puissions ensemble tourner nos regards vers le Seigneur, que nous puissions disposer nos cœurs à recevoir ce qu'il voudrait nous donner, et que nous puissions lui exprimer, faire monter vers lui notre adoration. Je vous invite chacun à se placer devant le Seigneur dans la prière. Seigneur Dieu vivant, nous n'avons pas besoin de venir en ce lieu pour que tu y sois. Tu es le Créateur de l'univers. Il n'est nul endroit où tu sois absent. Mais en même temps, Seigneur, tu nous as dit que tu te manifesterais de façon particulière, là où plusieurs d'entre nous serions assemblés en ton nom. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous voulons, Seigneur, unir nos cœurs, nos voix, pour t'adorer. Mais nous faisons également appel à toi, pour que tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler à nous, que tu nous donnes au travers de ce culte d'être enrichi par toi. Nous avons besoin de toi. Tu es celui qui nous a donné la vie, mais tu es également celui qui nous donne de vivre notre quotidien, qui est parfois très léger, mais aussi parfois bien pesant. Et dans toutes les circonstances de notre vie, nous avons besoin de toi. Que ce culte puisse te glorifier, que ce culte puisse t'honorer, Seigneur, et te réjouir. Amen. C'est bientôt Noël, vous le savez probablement, hein, je ne vous apprends rien, même notre église est décorée. Et ce que je vous invite en première partie de culte, pour bien prendre la mesure de ce que représente Noël, la naissance de Jésus, je vous invite en fait à ouvrir votre Bible à l'évangile de Jean au chapitre 1er. Et c'est ce texte qui nous servira de trame pour cette première partie. Jean 1, et je lirai à partir du verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voilà déjà face à un texte extraordinaire qui nous dit quelque chose qui pourrait sembler incompatible. La parole était avec Dieu, et en même temps, la parole était Dieu. Nous avons là déjà un petit éclairage sur un des mystères de notre foi, qui est ce que nous appelons la Trinité, c'est-à-dire l'idée que Dieu est unique, Dieu est un, et un Dieu en trois personnes. Et la parole dont il est question, nous le verrons plus tard, c'est Jésus ici. Jésus qui à la fois est Dieu, et qui en même temps est avec Dieu. Et c'est ce que nous appellerons bientôt à fêter, cette idée que le Dieu Tout-Puissant s'est incarné. Le Dieu Tout-Puissant est devenu homme. Il s'est fait homme et est venu habiter parmi nous. En cette nuit de Noël, Jésus est né. Donc le Dieu trinitaire existait déjà, mais en plus de cette idée d'un Dieu en trois personnes, Jésus a revêtu une nouvelle nature, à la fois Dieu et à la fois pleinement homme. Et le texte que nous allons chanter dit cela, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est né. Et c'est bien cela que nous célébrons à Noël, c'est la naissance de notre sauveur. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant. Les limites d'un ensoleillement magnifique. Je crois qu'il va falloir que nous bricolions quelque chose pour qu'en début d'hiver ou en fin de printemps, alors que le soleil correspond juste à un autre carré là-haut de lumineux, que nous puissions occulter un petit peu ça. Est-ce que vous les avez remarqués ce matin ? Est-ce que vous avez remarqué qu'ils sont revenus parmi nous? Les concernés, eux, ont compris de qui je parlais. On a la joie ce matin d'avoir Gilles et Marie, qui sont partis, enfin, je ne vais pas trop en dire, mais en tout cas, on a la joie de les avoir parmi nous, et puis j'aurais demandé si vous voulez bien nous donner quelques nouvelles. Parce que, en tout cas, on pense bien à vous, hein, on est contents. Pour ceux qui habitent près de chez vous, on peut dire les choses comme ça. Mais on est bien content de vous avoir aussi avec nous ce matin. Non ? Est-ce que vous voulez bien nous partager peut-être quelques nouvelles ?
Donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Gilles et Marie, on s'est mariés le 21 août 2010 et nous avons quitté cette église pour raisons professionnelles de ma part. J'ai été nommé dans le pays de Gex en tant que professeur des écoles remplaçant. Donc c'est pour ça que nous avons quitté un peu la région.
Nous sommes donc bien installés dans un petit village qui se nomme Farge. Donc c'est entre Gex et Bellegarde à peu près. Donc nous avons trouvé un appartement qui est très bien pour nous, très grand, et puis on a la joie d'avoir un loyer qui est très bas par rapport à tout ce qui se fait dans la région. Voilà.
Okay. Autrement, au niveau professionnel, pour moi, ça se passe moyennement bien, on va dire. C'est pas évident de commencer en tant que professeur remplaçant, etc. et j'ai une classe pas très évidente niveau comportement, donc je demande vos prières dans ce sens-là pour m'aider à être amour et à être juste avec cette classe.
Moi, j'ai commencé un travail sur Genève, donc en tant qu'opticienne, et puis j'ai la possibilité de faire des examens de vue et des adaptations de lentilles beaucoup plus qu'en France. J'ai un super patron et des collègues très, très gentils. Voilà.
Voilà, donc on vous remercie tous pour votre soutien, vos prières et vos pensées pour nous. On vous garde aussi dans notre cœur et puis ben, on repassera encore de temps en temps vous voir.
Je voulais juste vous... Enfin, j'ai précisé une chose sur l'appartement que je n'ai pas vu, mais vous oubliez de dire que vous avez vu sur le Mont Blanc, c'est ça?
Ouais. Ah, ouais. Sur un centimètre carré.
Un centimètre carré. Est-ce que vous avez trouvé une église oui. là-bas ou pas?
On est allé dans deux églises différentes pour l'instant. On n'a pas encore décidé dans laquelle nous nous installerions par la suite, mais on continue à...
Mais on cherche et on se sent bien dans les deux, donc... Voilà. On attend de voir un peu plus.
Voilà.
Je vous propose de rester là, puis je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour toute la joie et le plaisir que Gilles et Marie ont pu nous apporter lorsqu'ils étaient ici avec nous. Nous voulons nous réjouir parce que, Seigneur, tu les as conduits à se rencontrer, mais aussi dans ce nouveau lieu où ils n'avaient pas spécialement prévu d'aller. Nous savons que toutes choses sont entre tes mains. Nous voulons vraiment te les remettre, Seigneur, pour que là-bas, leur amour puisse toujours s'approfondir, l'amour l'un pour l'autre, mais aussi leur amour pour toi. Nous prions pour que tu puisses les conduire, les orienter dans une assemblée où ils pourront, Seigneur, à la fois être enrichis, mais aussi enrichir cette assemblée au travers de ce qu'ils sont et de leurs dons. Te demandons de leur accorder du discernement pour ce choix. Nous prions aussi que tu aides Gilles à manifester tout cet amour que tu lui as donné, qu'il voudrait à la fois, Seigneur, mettre en pratique auprès de ses enfants, mais aussi avec tous les problèmes que cela représente en tant que maître d'école, des disciplines, que tu lui donnes toute la sagesse. Bénis aussi Marie dans ses contacts avec ses collègues. Nous te demandons aussi, Seigneur, au travers du temps qu'ils passeront ici en famille, beaucoup de moments de joie pour eux. Merci, Seigneur, pour les bénédictions que tu leur as accordées, celles que tu leur accorderas encore, et celles que tu nous as accordées au travers d'eux. Amen. Merci. Je vais continuer ma lecture, toujours dans l'évangile de Jean, maintenant au verset 4. En elle, et là il s'agit de la parole, en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et même si nous avons ici un beau soleil ce matin, il nous faut bien reconnaître que tout n'est pas lumineux en ce monde. Tout n'est pas lumineux. Nous avons parfois l'impression que le mal a tendance à se propager. Tout n'est pas non plus lumineux dans notre propre cœur. Parfois nous pouvons... regretter d'y trouver un certain nombre de choses. Et c'est pour cette raison que nous avons particulièrement besoin de la lumière de Dieu, que Dieu vienne illuminer notre cœur, que Dieu vienne illuminer ce monde. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Jésus est la lumière, Jésus est la vie. Et nous avons là une sorte de coutume, de tradition, alors pas forcément dans cette église, mais même si nous le faisons depuis pas mal d'années, peut-être depuis toujours d'ailleurs, d'allumer une bougie pour chaque dimanche qui précède, enfin à partir du quatrième dimanche qui précède Noël. Alors est-ce que vous savez combien de bougies nous allons allumer ce matin? 4. Ces bougies pour nous symboliser cette lumière que représente Jésus en venant dans ce monde. Jésus, en venant dans ce monde, nous propose d'éclairer notre cœur.
médecin dans la salle, je crois. Merci à Simone pour cette magnifique couronne. Jésus, la lumière qui veut éclairer notre cœur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est ce que je vous propose maintenant de chanter et de vous lever pour cela. Un magnifique chant de Pierre Lachat.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivaient dans le noir complet, la clarté du jour s'est mise à briller. Le peuple qui marchait dans l'esclavage a vu son fardeau s'envoler, le bâton brisé et le fouet brûlé, le pouvoir qui pesait sur lui s'arrache. Noël, Noël, un enfant nous est né.
Ma lecture au verset 10. Elle était, donc la lumière, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. La parole s'est faite homme, c'est ce que nous célébrons à Noël. Au verset 1 à 3, nous avons vu qui était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et aussi, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notre Dieu, dans la personne du Fils de Jésus, s'est fait homme. Et dans maintenant 6 jours, c'est ce que nous allons célébrer. Mais en attendant et maintenant,
Nous voulons nous souvenir de pourquoi Jésus est né. Jésus est venu dans ce monde pour nous chercher et nous sauver. Alors nous, on était dans une église haïtienne, là, ces deux derniers dimanches. Je peux vous dire que je suis resté sourd 2 jours, et vraiment. Non mais, et c'est pas une blague. C'est pas une blague, j'ai dû mettre des boules-quies, mais j'ai les oreilles qui ont bourdonné pendant 2 jours, tellement le niveau sonore dans cette église était fort. Et c'est vrai que c'était très dépaysant. Et quand le pasteur ou celui qui animait disait quelque chose, ça criait des fois un peu trop, peut-être même à notre goût. Mais c'était pas partie de leur culture, c'est pas trop dans la nôtre. Hein. Je vais essayer de recommencer pour voir. Jésus est venu nous chercher. Hein. Et nous
sauver.
Voilà. Je m'étais dit, lorsque nous étions là-bas, si un jour on invite leur pasteur, parce qu'il va bientôt venir en France, si jamais on l'invitait à prêcher chez nous, il faudrait d'abord... Non. Pas tellement répété. Il faudrait d'abord qu'on vous dise un petit peu ce à quoi il faut que vous vous attendiez. Voilà. Mais autant la forme est très dépaysante, autant le fond et leur doctrine est la même que la nôtre. Et ça, c'est vraiment très réjouissant. Jésus est venu pour nous chercher et nous sauver. Et Jésus savait que notre salut aurait pour prix sa vie. Jésus est venu pour s'offrir lui-même en sacrifice. Il est venu pour sauver tous ceux qui le reconnaîtraient comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Verset 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » La loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. On va voir s'il y en a qui connaissent bien les chants. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous est né, sa charité nous enlace, il veut régner sur nos cœurs, sachons accepter sa grâce. Jésus, soit notre sauveur. Est-ce que quelqu'un reconnaîtrait les paroles de ce chant? Alors on le chante une ou deux fois par an, hein. Eh bien, maintenant, je vous invite à vous lever, vous allez découvrir ce chant et vous verrez que c'est parolier. Le 111.
Chant simple et joyeux, les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. La promesse est accomplie, le salut en Christ Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. Cœur de la délivrance pour les captifs façonnés, c'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous aime. Oh,
En souvenir du sacrifice de Jésus, nous allons maintenant partager le pain et le fruit de la vigne. C'est un geste symbolique pour tous ceux qui ont accepté dans leur cœur Jésus comme leur Seigneur et Jésus comme leur Sauveur. Au travers de ce geste, nous voulons nous souvenir que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie. Il a pris, il a assumé à notre place la conséquence de notre péché. Et nous voulons également nous souvenir que Jésus reviendra. Que Jésus est ressuscité et que nous aussi nous ressusciterons. Et qu'un jour, Jésus reviendra. Pourrais-je demander à Bernard et à Christian de s'approcher, s'il vous plaît, pour distribuer ces aliments.
Ces éléments, pour ce rassemblement qui veut te louer, t'adorer, et nous voulons nous remettre en toi, Seigneur. Que nous soyons chacun attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin, que nous soyons à ton écoute, prêts à répondre à ce que tu veux nous dire et nous faire passer dans notre cœur. Nous voulons te remercier, Seigneur.
Si vous voulez profiter de ces moments pour exprimer à voix haute votre reconnaissance, votre adoration, sentez-vous libre de le faire.
Merci Seigneur, parce que c'est toi qui guides nos pas. Seigneur, que ton esprit en chacun de nous puisse briller, surtout dans cette période de Noël où c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière dans les rues partout. Seigneur, que ta lumière brille dans nos cœurs, que tu puisses la refléter autour de nous, Seigneur. Amen.
Amen. Je propose qu'on la chante une fois qu'on aura fait circuler le vin. Ça fera le combien pour Charles, le numéro ?
788.
Le 788.
Merci parce que tu es lent à la colère, parce que tu reviens vers moi, tu me redonnes une chance, une deuxième chance, tu me pardonnes une fois, sept fois, 70 fois, sept fois. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Merci parce que c'est ce sang que tu as versé qui nous purifie de tout péché et qui nous donne accès à toi, qui nous donne son Dieu. Avant que nous chantions ce chant, juste une petite précision, peut-être vous entendez un peu de bruit à côté, et ça pour pas qu'il y ait un certain ressentiment. Mais hier soir, je suis passé à l'église et alors que les ados étaient réunis. Et en fait, cet après-midi, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une fête ici. Et entre autres, ils répètent, ils ont préparé quelque chose. Et là, parmi les bruits que j'ai entendus maintenant, c'est les mêmes que j'ai entendus hier soir. Donc je suppose que c'est les préparations. Donc, voilà, il faudrait qu'on ait des murs en béton de 30 cm d'épaisseur sur une dalle qui absorbe les vibrations. Mais ce n'est pas notre cas, donc c'est pour ça qu'on entend un petit peu. Mais alors, quand c'est en plein champ, on ne s'en compte de rien. Quand c'est sur un moment silencieux, c'est sûr qu'on entend bien les bruits. Mais bon. Je vous invite à vous lever pour ce chant.
Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté. Que mon cœur ému t'adore, je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est. Tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout.
Maintenant, laisser la place à Jean, mais je vous invite également à nous tourner vers le Seigneur par la prière. Seigneur, nous venons d'exprimer au travers de ce chant à quel point tu es un Dieu merveilleux, à quel point tout en toi est bonté, tout en toi est beauté. C'est tel que tu es, Seigneur. Nous avons parfois du mal à nous-mêmes le percevoir dans notre quotidien, selon les circonstances de notre vie. Et pourtant, Seigneur, toi, tu es toujours là. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole au travers de laquelle tu veux nous parler personnellement. Je voudrais te remettre Jean qui va nous partager cette parole maintenant. Je prie, Seigneur, pour que tu disposes nos oreilles à entendre, nos cœurs aussi à recevoir ce que toi, tu veux nous dire. Merci, car tu es un Dieu merveilleux. Tes desseins pour nous sont des desseins d'amour et de grâce. Tu nous tends la main. De nous, Seigneur, de toujours percevoir cette main, de la saisir et de goûter, Seigneur, cette joie, cette paix qui est celle lorsque nous sommes conscients de qui tu es, que nous avons été sauvés par toi. De nous, Seigneur, de ne pas laisser cet appel que tu nous adresses, mais que nous puissions vraiment, Seigneur, percevoir ce que toi tu veux nous dire ce matin. Amen.
Je dis bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués en arrivant. J'ai intitulé mon message « Dieu avec nous ». Vous savez que c'est la traduction du mot Emmanuel. Et je vous propose de lire dans l'évangile de Matthieu, donc le premier des quatre évangiles, au chapitre 1. Verset 18. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste, et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Et ensuite, il cite le prophète Ésaïe au verset 23. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À Noël, on fête une naissance, la naissance d'un bébé, un bébé de chair et d'os, comme tous les bébés du monde, comme tous les humains, mais un bébé, on l'a lu, conçu du Saint-Esprit et de ce fait totalement exempt du péché. Je vous propose une deuxième lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, Jean, chapitre 3. Premier verset. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Or il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint trouver Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il advenir ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela. Amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voilà, jusque-là. Alors on va reprendre ce passage, un peu en détail. Donc au verset 1, vous avez vu qu'il était question d'un pharisien. Vous savez que les pharisiens étaient une secte religieuse, juive, à l'époque de Jésus. Des gens extrêmement sérieux concernant la connaissance de la Torah, de la Bible de l'époque, hein, l'Ancien Testament, et qui s'efforçaient d'appliquer le plus possible dans leur vie et d'enseigner les préceptes de Dieu, la loi de Moïse. Et donc, ce Nicodème se présente à Jésus. Il est venu le voir de nuit. Peut-être qu'il souhaitait pas trop être vu, on ne sait pas. Et il était manifestement interloqué par ce nouveau rabbin, ce nouveau rabbi, ce Jésus. Il l'avait probablement entendu enseigner et il voulait en savoir plus. Et donc, vous voyez au verset 2, la façon dont il s'adresse à Jésus. Nous savons, c'est-à-dire nous les chefs, nous les maîtres enseignants du peuple juif, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. Dans l'original, il y a bien marqué un maître, un parmi d'autres. Celui qui enseigne, qui a l'autorité divine pour enseigner. Donc Nicodème avait probablement été étonné de son enseignement, mais dans ce récit, il va l'être encore plus. Mais en conscience, il ne peut douter que l'enseignement de Jésus ne vienne de Dieu, à cause des actes de puissance qui l'accompagnent. Il dit à Jésus, « Personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Le mot « signe » qui est utilisé là veut dire aussi bien « miracle » ou « acte de puissance ». Le signe, c'est la même chose. Et Jésus avait déjà produit de nombreux actes de puissance, des guérisons miraculeuses, voire même des résurrections. Les actes de puissance de Jésus attestaient l'autorité divine de son enseignement de façon indubitable, pour toute conscience droite. Et c'était le cas de Nicodème, qui était un homme droit, dont la conscience était travaillée par ce qu'il avait vu et entendu de Jésus, et qui discernait bien qu'à l'évidence, Dieu était avec lui. À ce stade, il n'avait pas bien sûr pas saisi encore que non seulement Dieu était avec lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il était Dieu lui-même. Jésus était Dieu lui-même. Notons qu'en qualifiant Jésus de maître, didascalos, hein, dans le terme grec qu'emploie la Bible, Nicodème range Jésus parmi les grands enseignants de son peuple, qui se sont assis dans la chair de Moïse pour enseigner le peuple à observer les commandements de Dieu. Alors au verset 3, on va voir comment Jésus répond à cette affirmation de Nicodème, « Nous savons que tu es un maître venu de Dieu ». Que dit Jésus ? Il lui donne, il rebondit pas sur l'affirmation de Nicodème, mais il lui donne une affirmation là, magistrale, on peut dire. Introduite par la fameuse formule « en vérité » ou « amen, amen hein, », ça veut dire c'est la même chose, hein, ça veut dire « en vérité ». Et quand Jésus dit ça, ça veut dire « fais bien attention à ce que je vais te dire ». Si tu veux voir le règne de Dieu, ce à quoi aspire bien sûr tout juif pieux, il te manque quelque chose. Il te faut naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance est présentée par Jésus comme indispensable pour voir le règne de Dieu. C'est une condition incontournable. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un chemin parmi d'autres pour aller à Dieu. C'est le seul. Le verbe qu'utilise Jésus pour dire naître, bon, c'est le verbe genao, qui là est au passif, qui signifie littéralement être engendré. Être enfanté, il faut vraiment que tu sois enfanté une nouvelle fois. Et le mot qui veut dire de nouveau est un mot dont le champ sémantique est assez large, qui veut dire aussi non seulement de nouveau mais d'en haut, un terme un peu ambigu, mais que Jésus utilise très certainement à dessein, hein, non seulement de nouveau mais d'en haut. On peut donc dire que Jésus utilise là un vocabulaire qui a de quoi plonger Nicodème dans un abîme de points d'interrogation. Et au verset 4, Nicodème fait part de sa stupéfaction en prenant les paroles de Jésus au sens le plus littéral. Un homme de mon âge, moi qui suis vieux, peut-il entrer une nouvelle fois dans le ventre de sa mère et naître ? Si vraiment c'est ça la condition pour voir le règne de Dieu, alors là j'y comprends plus rien. Alors, verset 5, Jésus va quand même préciser un peu son enseignement. Mais remarquez, toujours précédé de cette fameuse formule « Amen, Amen, en vérité ». C'est-à-dire, fais bien attention. Ce que je vais te dire, c'est important, c'est la vérité divine qui surpasse et complète toutes les vérités enseignées jusque-là du haut de la chair de Moïse. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors pour nous, ça peut paraître un peu mystérieux, d'eau et d'esprit. Pour Nicodème, c'est-à-dire un homme qui connaissait parfaitement l'Ancien Testament, la Torah, ces mots ne pouvaient pas évoquer des choses très précises. Et notamment, plusieurs textes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, écrits par les prophètes, des grands prophètes de l'Ancien Testament, qui parlaient justement d'eau et d'esprit, qui liaient ces deux choses. Et notamment, parmi d'autres, un texte d'Ézéchiel que je vous propose de regarder. Donc vous prenez le prophète Ézéchiel. Donc c'est dans l'Ancien Testament. C'est après Jérémie. Je vais y arriver, oui. Ézéchiel, voilà. Ézéchiel au chapitre 36. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36, au verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Voilà ce que dit Dieu à son peuple, qui était alors en captivité à Babylone, au verset 25. « Je vous aspergerai d'une eau pure. » Tiens, on retrouve l'eau. « Et vous serez purs. » Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. Et le mot souffle, aussi bien en hébreu qu'en grec, peut être traduit par souffle ou esprit. C'est la même chose. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle ou mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. » Donc, vous voyez, ce passage, jusqu'au 29 peut-être, oui. « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. « Je vous sauverai de toutes vos impuretés, etc. » Donc, cette mention de l'eau et de l'esprit a certainement fait tilt dans la tête de Nicodème. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez pur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. Je mettrai mon souffle en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et que vous les mettiez en pratique. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Alors on revient à l'évangile de Jean, notre chapitre 3. On arrive au verset 6. Jésus précise, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Donc Jésus précise encore que cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, est une naissance spirituelle. Ce n'est pas une naissance physique. Une naissance spirituelle complètement différente, étrangère à la naissance physique. Et le verset 8 affirme la souveraineté totale et incontrôlable pour les êtres de chair que nous sommes, de l'esprit. En effet, le vent ou l'esprit souffle où il veut. Tu l'entends, tu perçois bien quelque chose, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Donc une toute autre dimension, manifestement. Et l'apôtre Paul en parle, par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset 9. « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. » Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée du Christ, dit Paul. Donc, Dieu nous ouvre des horizons totalement inaccessibles à notre esprit naturel, et cela pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et que nous a-t-il donné? Rien moins que son esprit, dont il annonce à ses disciples, juste avant de les quitter pour aller au ciel, qu'il serait abondamment répandu sur eux. Rappelez-vous, en acte 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, juste avant de les quitter, juste avant l'ascension, « Vous recevrez une puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors revenons à Nicodème. On arrive au verset 9, Nicodème reprit, mais comment cela peut-il advenir? On sent que Nicodème a vraiment envie de connaître ça. mais ils se demandent comment c'est possible. Alors, les versets suivants, Jésus fait un petit reproche quand même à Nicodème. Il lui répond, « C'est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela ?» Donc, il fait gentiment à Nicodème le reproche d'être bien ignorant pour un docteur d'Israël. Et notez le passage à la première personne du pluriel. De nouveau, il utilise la fameuse formule « Amen, amen, je te dis ». Fais attention. « Nous disons ce que nous savons. » Jésus passe à « nous ». Alors, je me suis demandé pourquoi il passait à la première personne du pluriel. Est-ce qu'il englobait ses disciples, l'enseignement qu'il avait avec ses disciples? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt le « nous » trinitaire. Le « nous » de Dieu, du Saint-Esprit et du Fils. « Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous, vous les Juifs, hein, ne recevez pas notre témoignage. » Les Juifs et tous les hommes. Hein. « Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé... » Là, il revient un jeu. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Alors, ensuite, on a ces versets 14 à 17 qui paraissent un peu étonnants. Pourquoi Jésus parle de ça? Il continue, donc, il vient de dire que personne n'est monté au ciel sinon le Fils de l'homme, et personne n'est descendu du ciel sinon le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Et il dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Ça, Nicodème connaissait bien l'histoire. Jésus faisait allusion à un épisode de la vie du peuple juif qu'on peut lire dans le livre des Nombres, au chapitre 21, livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4. Les Juifs ont été délivrés de l'esclavage égyptien. Ils sont en route vers le pays promis, vers Canaan. Mais le trajet ne se passe pas très très bien. Ils ont de multiples occasions de rouspéter contre Dieu et contre Moïse. Au verset 4, donc, Nombre 21, verset 4, « Ils partirent de hors la montagne, par le chemin de la mer des Joncs, pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. » Donc le peuple parle contre son leader, Moïse, et à travers Moïse, contre Dieu. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous avons pris en horreur ce pain méprisable. » Alors le pain méprisable en question, c'était la manne. Cette manne, ce cadeau de Dieu, destiné à nourrir son peuple, dont il est dit, quand le premier jour ils en ont goûté, qu'elle avait le goût d'un gâteau au miel. Vous voyez, alors le gâteau au miel, là il est devenu ce pain méprisable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. « Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il restait en vie. C'est donc à cet épisode de la vie du peuple juif que Jésus fait allusion là, dans son discours à Nicodème. Moïse avait, sur l'ordre de Dieu, fabriqué un serpent en airain qu'il avait placé sur une haute perche afin qu'il puisse être vu de tout le peuple. Et toute personne qui venait être mordue par l'un de ces serpents, image de la morsure mortelle du péché, et qui regardait au serpent d'airain élevé entre terre et ciel sur cette perche, était instantanément guéri. L'action mortelle du venin était instantanément stoppée et annulée. Et Jésus explique à Nicodème qu'il faut que de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus, il faut que de même le Fils de l'homme, celui qui est descendu du ciel, soit ainsi élevé entre terre et ciel, afin que quiconque regarde à lui avec la foi d'être sauvé reçoive la vie éternelle. Et le verset 16 donne la raison de cet acte de Dieu. La raison, c'est « Il a tant aimé le monde ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Je ne sais pas ce que Nicodème a pu comprendre à ce moment-là de cette parole. On voit que par la suite, il essaiera de prendre la défense de Jésus lors d'une réunion du Sanhédrin juif. Et surtout qu'il se joindra à Joseph d'Arimathée après la crucifixion de Jésus, après sa mort, pour prendre soin du corps de Jésus, pour l'embaumer selon la coutume juive. On trouve ça dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean. Jésus, le Fils de Dieu de toute éternité, est venu prendre chair d'une femme sur cette terre de péché, il y a 2000 ans. Il s'est réduit à naître comme un simple nouveau-né dans une obscure étable de Palestine, à Bethléem, pour nous permettre à notre tour de naître, non pas d'entrer à nouveau dans le sein de notre mère, comme l'avait imaginé un instant Nicodème, mais d'une naissance spirituelle, une naissance d'en haut, une naissance d'eau et d'esprit. L'apôtre Paul affirmera cette glorieuse vérité dans sa lettre à son disciple Tite. On peut regarder Tite au chapitre 3. Tite chapitre 3 au verset 3. Paul dit, nous aussi, c'est-à-dire nous les apôtres de Jésus, nous aussi en effet nous étions autrefois des gens super, intelligents, non, stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. C'est étonnant dans la bouche de Paul, qui était lui-même un pharisien, un homme extrêmement zélé pour la loi de Dieu, eh bien il reconnaît en fait quel était l'état réel de son cœur. Voilà, il dit comment il était et comment était, ils étaient tous comme ça, et tous les hommes sont comme ça. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, donc on retrouve ce que Jésus a enseigné, par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit-Saint. Il l'a répandu sur nous largement par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Et il affirme à Tite, cette parole est certaine, et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement. Cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement. Cette parole, c'est qu'il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit-Saint. Donc, cet enseignement, Paul reprend cet enseignement que Jésus avait donné à Nicodème. Cette parole est certaine. Rappelez-vous comment Jésus annonce et formule cette affirmation. Cette parole certaine, amen, amen, en vérité, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, chers amis, peut-être y a-t-il dans cette salle des personnes qui ne sont pas encore passées par cette nouvelle naissance. Jésus affirme que c'est une nécessité absolue si vous désirez voir le règne de Dieu. Et comment cela peut-il se faire? Simplement en regardant avec foi à Jésus cloué sur une croix pour vos péchés et ceux de tous les hommes. Les Israélites qui regardaient vers le serpent d'airain après avoir été mordus par un serpent ne se posaient pas la question de savoir si ce simple regard allait les sauver. Ils contemplaient le serpent d'airain en y mettant tout leur espoir devant l'imminence de la mort qui les guettait. Il en est de même pour vous aujourd'hui. Vous êtes mortellement mordus, spirituellement morts à cause de vos péchés. Mais la guérison est là, elle est à votre portée, instantanée et pour l'éternité. Vous allez passer de la mort à la vie et découvrir les glorieuses promesses de Dieu pour cette vie et pour la vie future. Et la puissance de l'Esprit transformera votre existence. Prions. Seigneur, nous ne pourrons jamais te dire suffisamment merci d'être venu sur cette terre, sur une terre de péché, toi le Saint, toi le Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, tu as pris chair d'une femme, tu as vécu sur cette terre, tu as enseigné, tu as fait connaître la parole de Dieu et surtout tu as apporté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que on pouvait tout recommencer. On pouvait repartir à zéro par une nouvelle naissance. Une naissance spirituelle qui faisait de nous, qui peut faire de nous tes enfants. Et cela pour l'éternité. Seigneur, on te prie que ton esprit et ta parole soient puissants pour convaincre toute âme qui ne se serait pas encore tournée vers toi, toute âme qui n'aurait pas encore regardé vers ta croix, pour être délivré définitivement de ses péchés et pour connaître cette vie glorieuse des enfants de Dieu. Amen.
Merci Jean. Pour compléter ce message, je vous invite à ce chant. Le temps que l'ordinateur se réveille. Un chant que nous chanterons assis à notre place, comme une prière. Nous sommes plus vifs qu'un ordinateur, c'est formidable, non? Des fois, moi je vois des fois quand je pose certaines opérations, que j'appuie sur le bouton et je me sens, on dit, oh là là, mais comment une machine peut arriver si rapidement, ce qui moi il me faudrait des heures. Là c'est plutôt l'inverse.
vous fais maintenant quelques annonces. Et pendant les annonces, circuleront les paniers pour la collecte pour les gens de notre église. Alors, donc, cet après-midi, ici même, notre fête de Noël. 14h30, donc chacun est invité. Vous avez déjà eu plaisir d'entendre un petit peu les enfants répéter tout à l'heure. Vous aurez en plus plaisir à les voir cet après-midi. Donc, venez, hein, cordialement. Nous allons passer un bon moment ensemble avec plusieurs choses qui ont été préparées. Nous, on n'était pas là, on s'occupait de rien, c'est super, on arrive, tout est en place. Donc on se réjouit de pouvoir voir toutes les belles choses qui ont été préparées par les uns et les autres. Ce jeudi, à 20h15, nous aurons notre étude biblique ici même. Nous poursuivrons une étude biblique sur Romains et nous arrivons à une partie très intéressante. Avant, c'était déjà intéressant, hélas, très intéressant. Des fois, on se pose un peu les questions, c'est tout un... Ce chapitre 13, en fait, aborde la question de comment devons-nous nous comporter par rapport aux autorités, aux pouvoirs politiques, financiers, enfin, aux autorités qui sont en dessous de nous. Et ce chapitre, justement, aborde cela. Donc, je vous invite à venir ici, donc 20h15, pour une étude qui doit se terminer en principe donc à 21h45. Je vois que Marc s'est approché.
Voilà, juste deux annonces. L'une concernant ceux qui m'ont fait des commandes de calendrier. Alors, c'est là, à votre disposition. Si jamais il y a une erreur, hein, parce que je vous ai laissé noter, je ne sais pas si vous avez bien écrit, parfois vous êtes trompé vous-même, donc ce ne sera pas forcément ma faute. Hein. Mais c'est aussi ma faute, sans doute, que j'ai mal lu, que j'ai mal compris. Alors, n'hésitez pas à me le dire si jamais ce qu'il y a dans le... l'enveloppe ne correspond pas à ce que vous avez commandé. Et puis merci aussi de me régler pour que je puisse aussi le régler, pour ceux qui n'ont pas réglé, certains ont déjà réglé, pour que je puisse le régler à la maison de la Bible. Et puis vous avez aussi une petite centaine, puisque certains sont déjà partis, de ces calendriers qui sont des calendriers à distribuer autour de vous. Hein, vous en recevez, eh bien vous pouvez aussi en donner. Et ces calendriers ont un texte tous les mois qui parle de Jésus, qui parle du Seigneur. Voilà, ce sont des calendriers pour faire connaître la vie avec Dieu, des calendriers d'évangélisation. Alors, ils sont au prix de 2,20 €. Alors, prenez-en une dizaine pour les distribuer autour de vous et puis donnez-moi 22 € en échange. Voilà, comme ça, tout le monde sera content. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre de ces calendriers, ils sont faits pour cela, en cette période de fin d'année. Après, en janvier, ce sera trop tard, faudra les brader hein, à 1,10 €, hein, les 6 premiers mois, voilà. Mais prenez-en et puis distribuez-les autour de vous. Et puis venez me voir pour votre commande, je vous donnerai un cadeau de Noël, c'est formidable. Et vous me donnerez un chèque, c'est formidable aussi. Merci.
Il y aurait d'autres annonces, Lou ?
Bonjour. Certains sont venus me voir la semaine dernière à cause de petits problèmes qu'ils avaient pour se connecter sur le blog, pour écouter les messages. Donc j'ai envoyé à tous ceux dont j'avais l'adresse email, j'ai envoyé un petit topo hier. Par contre, j'en ai sorti sur papier, donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas à venir me voir. Merci.
Voilà. Merci à mon frère Lou de ne pas préciser que si jamais vous avez des problèmes pour connecter, c'est que quelques heures avant de partir en vacances, j'ai fait une manipulation sur le blog que je ne maîtrise pas bien. Et puis ben, donc ça vous a empêché... de pouvoir télécharger un certain nombre de choses. Maintenant, c'est réparé. Voilà, je vous souhaite, j'allais dire une bonne semaine, mais j'espère bien vous voir cet après-midi aussi, qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Et puis, en tout cas, que le Seigneur nous accompagne aussi pour cette période de fête, cet après-midi ou la semaine prochaine.
À quelle heure cet après-midi? Alors, pour ceux qui se seraient endormis tout à l'heure, 14h30. Voilà, à tout à l'heure ou bonne semaine à chacun. Merci.